France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Pour cette dernière journée, encore une étape dans la Nièvre, où Elisa avance un projet qui représente un lourd investissement, mais qui peut devenir facilement indispensable. Une micro-crèche adaptée aux enfants porteurs d'un handicap et adaptée aussi aux parents tenus à des horaires de travail normalement peu compatible avec ce type de service. Et puis une autre invention au nom des nouvelles formes de participation citoyenne à des élections et au profit de la transition numérique des services publics. On doit cette petite révolution à l'association Civic Power, dont Nicolas Bray, deuxième invité, est le porte-parole.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Elisa Jox-Renfort, bonjour.
Bonjour.
Je lis votre argumentaire, auquel je souscris à 200%. À défaut d'être riche, mon projet est, lui, riche de sens, et je compte bien me battre pour le défendre et le mener à bien. C'est la première bataille que vous menez vraiment dans votre vie, Elisa ?
Pas du tout. Je pense que je fais partie de ces personnes qui doivent se battre pour tout, mais vraiment pour tout. Je sais pas ce que c'est que d'avoir des parents qui vous mettent, qui vous donnent de l'argent de poche ou qui peuvent vous offrir tout ce que vous voulez. Mais l'éducation que j'ai reçue est riche et finalement, et ben, pour obtenir ce qu'on veut, il faut se battre. Donc je remercie ma mère pour toutes ses valeurs et aujourd'hui je me bats pour ce en quoi je crois.
Et vous croyez en une micro-crèche adaptée, c'est une crèche collective avec des extensions des horaires, c'est votre maman qui le dit dans le courrier qu'elle nous a envoyé, pour les parents oui. qui travaillent tard avec la particularité de l'accueil des enfants handicapés.
Oui. En tant que responsable RH, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une salariée qui ne pouvait pas reprendre le travail parce que sa fille avait un handicap moteur et qu'elle n'a trouvé personne pour la garder, ne serait-ce qu'une journée par semaine. Et en fait, ce sujet-là m'a beaucoup interpellée. Je me dis que c'est pas normal aujourd'hui qu'on ne puisse pas faire garder son enfant, enfin, quand bien même ça représente un coût. Je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur cette question.
Et donc, vous installez votre projet, enfin votre programme, vous le destinez à la commune de Sermoise-sur-Loire, où vous êtes allé chercher cette commune?
Alors, en toute franchise, j'en suis vraiment tombée amoureuse, je suis tombée sous le charme de Sermoise, et parce que j'y étais bien accueillie, parce qu'aujourd'hui, Monsieur de Jésus, pour ne pas le nommer, le maire de ma commune, est favorable à mon projet, qui m'accompagne dans mes démarches administratives. Et quand on a une chance comme celle-là, eh ben on doit de la saisir. Donc ça fait plaisir de pouvoir toucher les personnes qui nous représentent.
C'est incroyable, une crèche chez Monsieur de Jésus. Non mais c'est, l'image est jolie dans la symbolique. Plus sérieusement, Elisa, vous comptez créer cette crèche sous quel statut ?
C'est la création d'une entreprise. Je ne serai pas salariée de cette entreprise, donc accessoirement je vais créer des emplois. Mon objectif c'est de mettre à disposition un service et pas de me rémunérer avec. Mon métier je l'aime. Donc, je suis responsable RH et consultante en bilan de compétences. J'ai la chance de travailler avec des directeurs que j'apprécie, donc je ne vais pas m'arrêter là. Mais ce service, pour moi, il est important parce que je suis responsable RH et que je connais les difficultés des salariés.
Il y a deux temps. Il y a la création de la micro-crèche. D'ailleurs, j'ai lu en container.
Classe, hein ?
Je ne sais pas, parce que le container, c'est quand même un espace très fermé.
Mais non, la construction en container, ça reste quelque chose de modulable et ça répond à plein de critères éco-responsables finalement.
Et je comprends bien, il y a déjà des expériences de construction à base de structures de container. Mais vous ne vous arrêtez pas là, donc il y a la micro-crèche, mais il y a aussi un espace attenant qui vous serait cher puisqu'il est lié à la formation.
Oui. Ah, j'ai tout mis, hein. Salade, tomate, oignon. En fait, j'aimerais proposer des salles pour des formations continues, c'est-à-dire des formations pour les adultes qui reprennent leurs études. Et finalement, je m'aperçois en accompagnant des personnes en bilan de compétences qu'elles ne peuvent pas reprendre des études qu'on ne trouve pas à Nevers, même si aujourd'hui ça se développe. Il y a certaines études qu'on ne trouve pas à Nevers. Ces personnes-là seraient obligées de se rendre à Clermont-Ferrand, à Orléans, à Dijon, et ça nécessite un coût. Donc le transport, l'hébergement, éventuellement des frais de garde d'animaux ou d'enfants. Enfin, plein de personnes aujourd'hui ne peuvent pas suivre les études qu'elles aimeraient suivre pour des raisons financières.
Votre programme implique un investissement important, 800 000 euros.
Ça pique, hein ?
Ben oui.
Ouais.
Vous jouez au loto?
Non, c'est énorme. Effectivement, c'est énorme. Mais c'est le projet est scindé en deux projets. Ce qui va me coûter cher, c'est de réhabiliter le bâtiment. Après, la crèche en soi, pour une banque, c'est pas forcément ce qui effraie le plus. Mais ce côté humain, j'ai beau avoir du cœur et être motivée, c'est pas ce qui va convaincre une banque de m'accompagner.
Non, mais c'est un bon départ, vous savez. Ça sera pas suffisant, mais c'est un bon départ.
Mais oui, mais aujourd'hui j'ai créé une cagnotte litchi pour les membres de ma famille et vraiment dans l'espoir que ce lien circule parce que finalement aujourd'hui la solidarité ça fait beaucoup de choses.
En tout cas, maman Jox Renfort a bien fait de nous écrire.
Eh ben merci maman. Exact. Et elle y croit et c'est ce qui est touchant parce que ce qui est difficile c'est vraiment le jugement des autres. Donc aujourd'hui, ma mère y croit, mes proches y croient, beaucoup de personnes y croient. Donc je me dis que ça vaut le coup de me battre parce que j'ai de réelles raisons de le faire. Donc j'irai jusqu'au bout.
Chers amis, le lien avec le projet sur la plateforme Litchi, litchi.com, à nos pages d'émission. Bonne chance Elisa pour la suite.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
Nous avions conservé un courrier depuis quelques années en provenance de la Nièvre qui nous proposait une adresse insolite. Alors entre-temps, d'autres médias ont visité ce lieu et c'est tant mieux pour son initiateur. Il s'agit de Relaxel, alors s'écrit Relax, R-E-L-A-X-S-E-L, qui est niché sous les voûtes d'une abbaye au cœur du vignoble à Pouilly-sur-Loire. Alors il faut avouer que l'endroit est bien insolite et unique en son genre. Il s'agit en fait d'une cave à sel, entendez, un espace dont les murs sont recouverts de galets de sel importés de Pologne. En effet, au siècle dernier, des médecins se sont rendus compte que les personnes travaillant dans des mines de sel n'avaient jamais d'infection respiratoire. Ainsi est née l'allothérapie, méthode naturelle répandue depuis plusieurs siècles en Europe centrale et en Amérique du Nord. Le sel présente l'avantage d'être gorgé d'oligo-éléments, de sels minéraux et d'ions négatifs qui procurent des bienfaits qui peuvent même soulager, voire guérir de l'asthme. Ceci se porte aussi sur les troubles liés à la fatigue ou au stress. Les retours d'expérience des utilisateurs sont plutôt étonnants et il est dit que 30 minutes dans une cave à sel prodigue les mêmes effets qu'un week-end en bord de mer. Et ça coûte moins cher. Ce lieu se trouve à Saint-Laurent-l'Abbaye, au nord-ouest du département, entre Donzy et Sancerre, relaxel.fr. Et puis autre site à découvrir absolument, les forges royales de Guérigny. Elles sont situées au nord de Nevers et ces forges historiques, dont l'activité est née au XVIIe siècle, ces forges se sont forgées, j'ai mis ça haha entre parenthèses parce que normalement on peut rire, petit jeu de mots, une lourde réputation en fabriquant des encres pour la marine. Il s'agit d'un immense complexe de bâtiments inscrits aux monuments historiques, dont l'un d'entre eux est le siège d'un théâtre depuis 2014. Vu le contexte, il s'agit d'un des plus vieux théâtres de Bourgogne qui est géré par l'association du théâtre et animé par la compagnie du Carambol Théâtre. À voir samedi 20 novembre, par exemple, le Barbier de Séville de Beaumarchais, théâtre des Forges Royales.com. Nicolas Bray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole, membre fondateur de l'association Civic Power, que vous avez co-créé avec Christophe, avec Muriel, qui nous avait écrit au mois de janvier, on avait gardé son courrier. Parce que Civic Power veut contribuer au développement de la démocratie numérique, aux nouvelles formes de participation citoyenne, je cite, grâce à une plateforme de vote sécurisée. Là, jusque-là, tout va bien. Il y a plus en plus de personnes qui sont favorables au vote par Internet. Est-ce que malgré tout, cela va améliorer le sort de notre démocratie et diminuer le taux d'abstention?
Alors, à mon avis, ça va surtout permettre de la faire perdurer. Aujourd'hui, la démocratie, si on veut parler du mot démocratie, on peut pas dire qu'elle existe vraiment. Les dernières élections, je crois que c'est les régionales en début d'année, notamment chez les jeunes, 82 ou 83% d'abstention chez les 18-34 ans. Ça, c'est pas la démocratie pour moi.
Ouais.
Donc, on a certes un problème de proposition politique ou qui ça a du mal à intéresser les gens, mais on a aussi, à mon avis, notamment pour cette tranche d'âge, un problème d'usage. Le point commun avec Christophe et avec Muriel, c'est qu'on a des enfants qui sont en âge de voter ou qui vont bientôt aller voter. Et je prends exemple sur mon fils qui a 17 ans. J'ai passé du temps à l'élever et à lui donner des convictions, il faut aller voter. Je doute qu'il aille un jour dans un gymnase pour déposer un bulletin dans une urne.
Mais vous dites à juste titre qu'il y a une crise de confiance et depuis longtemps on le constate. Est-ce que cette nouvelle méthode, par exemple, du vote numérique va améliorer cette confiance? On peut en douter.
Alors justement, ce qu'on apporte chez Civic Power, c'est pas que c'est une plateforme de vote numérique. C'est surtout une plateforme qui est sécurisée par la blockchain. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est la blockchain, mais c'est l'outil qui permet la transparence. J'ai entendu un tas de gens pendant l'époque Gilets jaunes, depuis 2018, il me semble, où là, il y avait beaucoup de défiance envers le pouvoir, et les gens disaient qu'ils n'allaient plus voter parce qu'ils n'avaient pas confiance dans celui qui organisait les élections. La plateforme qu'on met à disposition aujourd'hui, elle permet cette transparence-là. Elle permet que chacun puisse voter, vérifier son vote de bout en bout, que chacun puisse compter son bulletin dans l'urne, j'ai envie de dire, et que tout le monde, d'ailleurs, puisse recompter les bulletins de l'urne.
Oui.
Donc ça permet de dire qu'une élection est intégralement correcte.
Alors c'est votre entreprise, Mission, VoteLab, qui est à l'origine de cette plateforme de vote, qui se découpe en différents modules, puisqu'il y en a une première utilisation, on va dire une utilisation citoyenne et associative.
Alors, et c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a deux entités. Civic Power, c'est d'abord une association à but non lucratif, qu'on a fait il y a 18 mois.
Oui.
Dans cette association, il y a les actifs, c'est-à-dire la plateforme, la blockchain, le Civic ID des gens, c'est-à-dire la donnée personnelle des gens. On a tenu à faire ça parce que c'est très rassurant pour les citoyens. Ils peuvent être sûrs que leurs données personnelles ne seront pas revendues ou qu'on ne servira pas pour autre chose. On a commencé à essayer d'amener cette plateforme sous les yeux du public. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens, notamment des mairies ou des entreprises, qui, elles, avaient besoin d'une entreprise derrière, justement, pour contractualiser. Elle ne veut pas travailler forcément avec une association. C'est pour ça que VoteLab existe. Et VoteLab, elle amène un peu de service premium sur cette plateforme. De la valeur ajoutée, on fait notamment chez VoteLab, ils font de la consultation à base de QR code. Des maires qui veulent faire un peu de démocratie participative dans leur village, dans leur ville. VoteLab amène quelque chose sur la couche Civic Power. Si vous voulez, Civic Power, elle se restreint à la plateforme et la blockchain.
Et enfin, vous avez créé un jeton, donc c'est une monnaie d'échange, le Power.
Alors, c'est un peu particulier. On s'est posé la question au moment de créer cette entreprise, de se dire comment on se finance. On n'a pas voulu aller chercher les financements d'État, BPI et compagnie, en se disant peut-être que c'est perdre un peu notre indépendance. On n'a pas voulu non plus ouvrir le capital de cette boîte à des fonds ou à des gens qu'on connaissait pas, de l'argent, du capital, j'ai envie de dire, pour pas non plus perdre cette indépendance.
Ouais.
Et le moyen qu'on a trouvé, c'est faire ce qu'on appelle une ICO en crypto-monnaie, un crowdfunding citoyen contre royalties, en fait. On a créé une crypto-monnaie qu'on a distribuée à peu près 2600 investisseurs qui, eux, ont participé. Donc au final, on a levé un peu plus de 3,5 millions d'euros, on a distribué ces jetons, et c'est la garantie pour nous et pour eux, également de la transparence. On est donc financé par des citoyens, par 2600 citoyens qui ont voulu créer leur urne électronique, en fait, leur outil de vote transparent et souverain.
Ouais. Et ça, quand même, à des fins d'usage de ce système, dans le cadre, alors c'est trop tôt pour 2022, mais pour 2027, des prochaines élections présidentielles, un vote à distance.
Alors, j'espère qu'on y sera un petit peu avant. Effectivement, pour 2022, le présidentiel, à mon avis, c'est déjà joué.
Oui.
Et tant mieux, parce que on peut pas dire qu'on soit totalement prêt. Il manque plein de choses encore. Par contre, j'ai bon espoir que ça soit un peu plus près que les prochaines présidentielles. Il y a des scrutins entre-temps. Hein. Il y a un bout de législative.
Oui.
On aura encore des régionales. On aura des municipales. Je pense que on va y passer. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Tous ces jeunes, ils iront jamais dans l'urne. On voit que l'Assemblée nationale a commencé des travaux là-dessus. Il y a des amendements qui sont déposés, rejetés. Enfin, on voit qu'il y a un peu de bruit autour de ça.
Mmh.
On peut pas aller contre un usage comme celui-ci en 2021. C'est pas possible.
Le site de l'entreprise, c'est votelab.io. Il y a la plateforme de vote. civicpower.vote. Merci Nicolas pour les informations et l'initiative.
Merci à vous pour l'invitation.
Petite information pour conclure, on prend toujours des infos en provenance du Val d'Oise, de Seine-Maritime et de l'Oise. Merci à Joël Levert qui donnait du contenu au carnet cette semaine. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur apportent du volume et du coffre, mais c'est pas une richesse. C'est vraiment le volume sonore, en particulier Vincent Godard. Nicolas Stoufflet assisté de Yann Pailleret. 5e dernière journée du jeu des 1 000 euros à Mou-en-Morvan dans la Nièvre.